cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 2 novembre 1995.
Après avoir vu, du moins, après avoir expérimenté ce qu'est l'amour d'amitié, la grande expérience éthique que je crois, analyser l'amour d'amitié, l'imperium, l'usage, et ça se termine par la joie de faire œuvre commune avec l'ami et surtout de le choisir comme ami. Donc de vivre de sa présence, il y a la joie. La joie est un acte humain, la joie spirituelle. Et c'est vrai, c'est l'amour d'amitié qui nous procure les plus grandes joies spirituelles. La question se pose, mais je ne la règle pas avec vous, mais je la dis pour vous. Est-ce que cette analyse recouvre toute la diversité spécifique des actes humains? Mais ce sera intéressant, et c'est ça qui est très intéressant au point de vue philosophique. Est-ce que, quand j'analyse vraiment en profondeur mon expérience de l'amour d'amitié, est-ce que tous les actes humains, dans leur diversité spécifique, pas dans leur diversité individuelle, c'est évident, mais spécifique, est-ce qu'ils sont là, tous présents? Comprenez que, qu'est-ce qui caractérise un acte humain? C'est la responsabilité. Or, la responsabilité n'est vraie qu'à l'égard d'une personne. Et c'est à l'égard de l'amour d'amitié et dans l'amour d'amitié que la responsabilité s'épanouit. Mais quand vous dites que vous êtes responsable d'un outil, de ne pas le massacrer, ça fait partie du bien commun. Tout ce qui fait partie du bien commun, vous devez le respecter. Les autres tout. Hein? Et pas seulement que les autres tout. Les arbres, les chaises, le mobilier, le lit, tout ce qui fait partie du bien commun. Vous le respectez à cause de quoi? À cause du bien commun? Non. À cause des liens de charité qui existent, d'amour, d'amitié, qui existent dans une communauté. La responsabilité est toujours à l'égard d'un être humain, d'une personne. Elle n'est pas à l'égard d'un outil. L'outil ne va pas se lever et vous dire « Respecte-moi, mon cher. Je suis unique au monde. Tu ne trouveras jamais un tournevis aussi parfait que celui-là. Tu ne trouveras jamais une auto aussi parfaite que celle-là. » Non. Ils se taisent, les pauvres instruments. Ce sont de très bons esclaves qui se taisent complètement. Inanimé. Tandis qu'au contraire, à l'égard des personnes humaines, je respecte leurs droits. Mais la responsabilité regarde le droit de quelqu'un. Et ça, ça fait partie de l'analyse que je fais vis-à-vis de l'amour d'amitié. Alors, il faut, et ça, je fais appel là à votre examen de conscience philosophique, éthique. Les stoïciens, ça faisait partie de leur cours philosophique d'avoir un quart d'heure d'examen de conscience. Un bon stoïcien. Je ne sais pas comment ça se faisait. Hein. Des petits groupes. Un quart d'heure d'examen de conscience. autre, qui est autre, mais totalement autre que l'amour d'amitié. Vous allez me dire tout de suite, la recherche de la vérité. La recherche de la vérité transcende l'éthique. Ça, c'est sûr. De sorte que c'est pas la recherche de la charité qui va me faire comprendre ma responsabilité. Non. Ça transcende l'éthique. C'est quelque chose qui va plus loin. C'est quelque chose qui est présent dans l'amour d'amitié. Puisque je dois connaître mon ami et je dois le connaître en vérité. Connaissance humaine nécessaire lorsqu'il y a une amitié. Vous voyez, entre la communauté Saint-Jean et les étudiants qui sont ici et qui ne sont pas de la communauté, il y a un contrat tacite d'amour d'amitié. C'est évident. C'est-à-dire qu'on respecte, qu'on s'aime, qu'on fait confiance. Celui qui ne ferait pas confiance, on dit, mais vous perdez votre temps. Vous savez ce que disait Socrate. Es-tu mon ami? Si tu n'es pas mon ami, tu peux partir. Je peux rien te dire. Oui. Et en fond, c'est ça. Il y a une espèce de pacte. Bon, ceux qui sont religieux, c'est la vie religieuse qui nous unit. Donc, il n'y a rien qui s'ajoute. Vis-à-vis des autres, c'est comme un pacte tacite. On les laisse tranquilles. C'est vrai, on leur demande d'avoir confiance. Et de ne pas trahir. Parce que ça, on n'entre pas pour trahir. C'est-à-dire pour dire des tas de choses qui sont fausses. Parce qu'on a regardé de l'extérieur et qu'on n'a pas compris. Alors, vous voyez, là, il y a un examen de conscience normal. Est-ce qu'on vit en... J'ai toujours dit qu'ici, on faisait une famille dans la recherche de la vérité. Le but, c'est la recherche de la vérité. Si vous voyez des choses qui sont contraires à la vérité, vous devez en conscience le dire. Mais le dire par voie publique, c'est-à-dire à travers ceux qui sont responsables. Ça, c'est très très important. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de famille. Alors, on tue le caractère propre de ce que représente le travail qu'on fait ici. Oui. Alors ça, j'y tiens absolument. Je serais farouche vis-à-vis de quelqu'un qui, au fond, est ici uniquement comme dilettante. Vous voyez ce que je veux dire? Pas pour les frères, parce que c'est impossible qu'ils soient dilettantes. Non. Ils auraient mal choisi leur lieu. Non, ce serait une grosse erreur sur la personne. Non. Donc, mais de l'extérieur, on se connaît petit à petit, alors qu'on s'aperçoit de ce que doit être cette recherche ici, dans un cadre de famille. Donc, de la même recherche de la vérité. Et je dis ça dans un cours d'éthique, vous voyez, exprès. Je ne dirais pas ça pour en métaphysique, je le dis dans un cours d'éthique. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut dire que dans un climat de confiance. La parole de Socrate que je trouve tellement belle. Es-tu mon ami? Si tu es mon ami, je peux parler. Et je crois que c'est le propre de la philosophie, ça. Parce qu'en philosophie, on va très loin. On va très loin dans la recherche de la vérité. Donc on va très loin dans la recherche. Vous voyez, si on est en face d'ennemis, on dit ce que l'ennemi peut assimiler. Et c'est pas grand-chose. Si on est en face d'amis, on recherche ensemble. Venez. Nous recherchons toute la vérité et nous essayons de comprendre. Peut-on établir une éthique à partir de l'expérience de l'amour d'amitié? Je vous l'ai dit, c'est une recherche que nous faisons. Si vous ne comprenez pas, Si vous êtes contre, vous avez le devoir de le dire. Comprenez ? C'est vrai. Pour rentrer dedans, parce qu'autrement, on reste avec un a priori affectif contre. Et cette espèce de d'a priori affectif contre n'est pas philosophique. Il est anti-philosophique. Et il fait du mal à tous. Parce qu'il suffit dans un groupe qu'il y en ait deux qui soient contre pour que immédiatement on ne puisse plus avoir le même langage. C'est très curieux, ça. Et on le sent. On sent ça. On sent qu'il n'y a plus la même réceptivité. Alors, on s'arrête. Alors que je crois que la philosophie, ça doit être toujours une recherche de la vérité. Le professeur qui enseigne a une expérience plus longue que vous, mais il recherche la vérité aussi comme vous. Personne d'entre nous ne possède la vérité. On la cherche. Et on essaie par tous les moyens de la trouver. Alors, quand on voit des confusions, voilà, confusion. Quand vous sentez des confusions à l'égard de l'enseignement que vous recevez, vous devez le noter. C'est votre devoir. Et non pas se le dire entre eux. C'est le murmure. Et le murmure intellectuel est pire que tout. Le murmure affectif. Bon, très bien. On a des tempéraments différents, n'est-ce pas ? Chez un, l'irascible le plus développé, chez l'autre, le concupiscible le plus développé, ça fait des étincelles de l'irascible ou du concupiscible. Mais ça, c'est trop rien, parce que ça fait partie des humeurs, ça fait partie de l'affectivité, ça fait partie de la psychologie. Tandis que lorsqu'il s'agit de la vérité, c'est beaucoup plus grave. Parce que ne pas avoir ce désir de recherche de vérité, quand on fait partie d'une famille, on se met soi-même en dehors. Alors qu'on ait la loyauté de le dire, ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Mais très bien, on vous a pas obligé de venir. Bon, c'est très vrai, on vous a pas obligé de venir, vous êtes là. Ah, si vous venez à cause du désir de papa ou de maman, c'est différent. Écoutez, ça, on n'est plus à l'école maternelle. On est dans une recherche philosophique. Une recherche philosophique, c'est chacun qui prend sa responsabilité. Et on doit prendre nos responsabilités. Oui. Je dis ça parce que c'est très important. Vous voyez, l'éthique que nous faisons, on doit la vivre. Autrement, ça ne sert à rien. On doit la vivre. Or, c'est une éthique de l'amitié. Parce que je crois que c'est la seule qui existe. Fondamentalement. L'éthique de l'amitié implique une confiance. Et on ne peut pas faire une éthique de recherche de la vérité en dehors de cette confiance. Ça, c'est capital. Vous voyez ? Il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Alors, je demande que s'il y en a qui ne sont pas d'accord là-dessus, qu'ils le fassent savoir, pas au cours, mais qu'ils le fassent savoir par une voix normale. Il y a des responsables. Pour qu'on puisse délibérer et voir s'il vaut mieux rester ou pas rester. Oui, c'est normal. Pour les frères, les sœurs, c'est facile. Il y a un permède qui est là. Mais même vis-à-vis d'eux, il y a une recherche de vérité qui doit être loyale. Autrement, on perd son temps. Vous voyez, si on assiste au cours uniquement par obéissance, c'est pas vrai. On doit assister au cours en coopérant dans la recherche de la vérité. Et on doit coopérer. Alors, je sais très bien qu'il y a un phénomène de langue. C'est vrai. Alors, le phénomène de langue, on doit être suffisamment simple pour dire « je n'arrive pas à suivre, c'est impossible ». Alors, on demande un traducteur si c'est possible. Ou on n'insiste pas au cours parce qu'on n'est pas encore assez habitué à la langue. Je comprends très bien ça. Et que assister au cours uniquement pour apprendre la langue, ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais alors, je dirais, on ne ferait pas, on mettrait un particuliers. Ceux-là sont là pour apprendre la langue. Enfin, c'était le père Doux qui me racontait toujours que quand il y avait les prédications qu'il faisait à Paris, il avait toujours devant lui des acteurs de la Comédie française qui venaient pour voir comment un orateur chrétien prêchait. Et quand le père Janvier prêchait à Notre-Dame, les grandes conférences de Notre-Dame, il avait toujours devant lui un grand public qui relevait des comédiens de la Comédie française. Qui était là, moi, il le savait. Alors un beau jour, ces messieurs ne sont plus venus parce qu'ils trouvaient que c'était suffisant et que ça leur touchait peut-être un peu trop leur cœur. Il a commencé, c'est comme maintenant je ne peux plus parler. Et tout le monde a compris. Parce que c'est pas toujours commode, hein, quand on sait qu'ils sont là. Mais je pourrais demander à tous ceux qui sont de la résistance de se mettre sur le premier rang. Alors je le regarderai de temps en temps. Enfin, si vous êtes de la résistance, très bien. C'est nécessaire. Alors nous avons étudié ensemble. Et ça, je voudrais savoir. Je ne vous demande pas d'être tous d'accord, mais au moins de chercher. Et de ne pas être anti, tout simplement, en raison d'un a priori affectif. Ça, c'est insupportable. Les a priori affectifs, au plan philosophique, on doit les dépasser. C'est insupportable. Et ça arrête beaucoup la recherche philosophique. Donc ça, c'est très très important. On a ensemble essayé de comprendre comment l'amour d'amitié et l'expérience de l'amour d'amitié est le fondement, c'est-à-dire l'expérience radicale de l'éthique fondamentalement humaine. Deuxième plan que nous allons maintenant préciser. Une fois que le philosophe a découvert l'existence d'un être premier, une fois que l'homme, s'il n'est pas philosophe, à cause des traditions religieuses, ou à cause de sa foi, mais surtout des traditions religieuses, qui peuvent s'appuyer sur la foi, traditions religieuses judéo-chrétiennes, tradition religieuse juive, tradition religieuse de l'islam, tradition religieuse, surtout ces aspects-là, on accepte l'existence d'un être premier qui est le créateur. Alors apparaît à ce moment-là une nouvelle dimension. Responsabilité éthique. Le point de vue religieux. L'homme est essentiellement un être religieux, c'est-à-dire un être, une personne humaine capable de découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, qui est le Créateur. Mais c'est là cette dimension nouvelle qui apparaît tout de suite, qui est autre que l'amour d'amitié. Je pourrais me poser la question, puis-je, par l'adoration, établir avec Dieu un lien d'amitié ? Ça, c'est une très grave question et très importante en éthique religieuse. Ce qu'il faut bien saisir, et c'est ça que je voudrais que vous saisissiez bien, c'est ce passage de l'éthique fondamentalement humaine qui ne s'appuie que sur l'expérience de l'amour d'amitié. Et puis l'éthique religieuse qui est chose repose sur cette expérience de l'adoration. Et voyez que là, il y a un problème extrêmement important. Mais je dirais que pour moi, c'est le grand problème éthique d'aujourd'hui. C'est que on commence à voir une civilisation humaine qui est après la culture chrétienne et la civilisation chrétienne qui existe depuis 2000 ans, qui est en train de l'intérieur de tomber au profit de l'idéologie athée. Parce que cette idéologie athée est née de notre Europe, qui a été chrétienne, qui est encore chrétienne, mais qui a été chrétienne. Et les idéologies athées prétendent que l'homme se suffit à lui-même, qu'il a une autonomie absolue, qu'il ne dépend d'aucun créateur. L'attitude de Feuerbach, essence du christianisme. Il faut avoir lu ça. Je ne dis pas nécessairement la première année de sa philosophie, mais il faut l'avoir lu en seconde année ou en troisième année. C'est un livre capital pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Puisque Feuerbach est de fait à l'origine de toutes les idéologies athées d'aujourd'hui. Or, ces philosophies athées engendrent une culture d'un laïcisme absolu. Et je dirais spécialement en France. C'est peut-être le caractère particulier de la laïcité française. On n'a pas le droit de parler religieux, de Dieu et du Créateur. Ce n'est pas philosophique, ce n'est pas humain, ce n'est pas l'éthique humaine. Il y a un anticléricalisme qui fait que tout ce qui est religieux est clérical, et que tout ce qui est clérical est confessionnel, et que tout ce qui est confessionnel doit être rejeté pour découvrir l'homme dans toute sa pureté. C'est la thèse de Feuerbach. Et donc, affirmer l'existence d'un être premier qui est Dieu n'est pas humain, ça relève de la foi. Donc c'était confessionnel. Tandis que nous prétendons et nous disons que la découverte de l'être premier est une découverte philosophique, humaine, tout court. Et la découverte de l'existence d'un être premier créateur implique une nouvelle dimension de l'éthique, une nouvelle dimension de la personne humaine, qui est l'attitude religieuse. Et cette attitude religieuse, nous la découvrons à travers l'expérience de l'adoration. Vous êtes très net là-dessus. Oui, ça, je vous le demande. Si vous n'avez pas l'évidence, voyez pourquoi vous n'avez pas l'évidence. Vous voyez ? Parce que c'est des vieux restes de laïcité française, ou des vieux restes d'idéologie marxiste. Vous voyez, l'idéologie marxiste ne se dit pas laïque. Elle dépend d'une idéologie athée. pas humain, il est confessionnel. On fait partie du parti. On est engagé dans un point de vue politique qui implique une idéologie athée. Toutes les idéologies athées, voyez, je dis sont confessionnelles, c'est-à-dire sont quelque chose qui ne peut pas s'expliquer directement par la philosophie. L'idéologie athée ne peut s'expliquer que par un a priori affectif et ne s'explique pas philosophiquement. Ça, je voudrais que tous vous en soyez convaincus. Si vous ne l'êtes pas, cherchez pourquoi. Est particulièrement agressive. C'est normal qu'il y ait ça. Alors on doit essayer de comprendre pourquoi on le dit. Est-ce que ça repose sur mon expérience ou est-ce que ça repose sur un a priori? Ceci pour comprendre que entre l'éthique fondamentalement humaine et l'éthique religieuse, il y a un lien de nécessité. Si je vais jusqu'au bout de l'éthique humaine, je suis obligé d'aborder le problème de l'existence d'un être premier. Et si j'aborde le problème de l'existence d'un être premier, où je découvre cet être premier et je comprends immédiatement comment, au plus intime de moi-même, il y a une attitude, il y a quelque chose de nouveau. J'adore. Et l'adoration est un acte capital qui transforme toute ma vie. C'est un acte radical qui transforme toute ma vie. À partir de l'adoration, l'éthique humaine se transforme. Elle acquiert une nouvelle dimension, la dimension religieuse, à partir de l'adoration. Là, il faut être très net. Mais si on cherche la vérité, si on cherche la vérité, il faut être très net. On peut très bien ne pas comprendre, hein. Ça, ce que je demande, c'est d'être loyal. Ça, la loyauté, un peu du jour. On peut très bien ne pas comprendre. Mais je ne comprends pas ça. Cherchez pourquoi vous ne comprenez pas. Quel est l'obstacle? Parce que c'est très important. Et c'est le gros problème d'aujourd'hui. Faut bien se le dire. Vous rencontrerez, et vous l'avez déjà rencontré, des personnes humaines d'une sincérité parfaite qui vous diront l'intelligence. L'homme ne peut absolument pas par lui-même découvrir l'existence d'un être premier. Alors si l'homme ne peut absolument pas par lui-même découvrir l'existence de Dieu lui est donnée en fonction de sa foi. Donc ça devient une éthique confessionnelle. Mais nous avons le devoir, si nous sommes philosophes, de dire non, c'est pas vrai. L'homme peut par lui-même découvrir l'existence de Dieu. La preuve historique est nette. En philosophie grecque, sans la révélation, ils ont affirmé l'existence de Dieu. Comment l'ont-ils fait? Parce que Les idéologies athées ont obscurci l'horizon de la recherche humaine d'une manière telle qu'on est convaincu très souvent aujourd'hui que l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même découvrir l'essence de Dieu. Donc, elle ne découvre l'essence de Dieu que en raison de la foi ou en raison de l'intérêt qu'on a des traditions religieuses. Et qu'à ce moment-là, l'intérêt qu'on a des traditions religieuses permet d'établir une éthique qui repose sur l'opinion et donc qui n'est plus totalement philosophique. Une éthique qui repose sur l'opinion repose sur un pis-aller en attendant de voir mieux. Conduisez-vous comme si c'était ça la vérité. Paris de Pascal. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, on est bien obligé de prendre le Paris de Pascal. Je ne veux pas pour vous, puisque si vous êtes ici, c'est justement pour cela. Je ne dis pas que c'est notre originalité, puisqu'il n'y a aucune originalité à ça, mais c'est la recherche de la vérité. La recherche de la vérité m'oblige de dire ça. Que l'intelligence humaine peut par elle-même découvrir l'essence de Dieu. Et si je découvre l'essence de Dieu, je découvre l'essence du Créateur. Et découvrant l'essence du Créateur, je découvre la nécessité de l'adoration. Philosophiquement, je peux dire que l'homme doit adorer le Dieu qu'il a découvert, qui est son Créateur. Et cette partie de la philosophie repose sur l'adoration et l'analyse de l'adoration, qui est un acte humain plus important que le choix d'un ami, parce que c'est beaucoup plus radical. Alors on doit à ce moment-là étudier, analyser l'expérience de l'adoration et comprendre que l'adoration aboutit à l'acquisition de la vertu de religion et que la vertu de religion est une vertu qui transforme et qui peut transformer toute mon éthique fondamentalement humaine, qui donne à cette éthique fondamentalement humaine un nouvel horizon, une nouvelle finalité, adorer et aimer Dieu. Alors vous voyez, on ne va pas voir plus que ça. Je situe l'éthique religieuse, mais c'est très important de le situer. Et nous avons un troisième moment, l'éthique chrétienne, puisque c'est ça, je crois, la matière de l'année qu'on doit voir ensemble. Alors, si l'éthique religieuse pose des problèmes, c'est vrai, puisque ça exige vraiment la découverte de l'existence d'un être premier que les traditions appellent Dieu. Le mot Dieu n'étant pas philosophique, étant un mot qui est donné à travers les traditions religieuses. Ça ne veut pas dire que ce mot Dieu soit pour le philosophe un mot extrêmement important, et que pour le philosophe, cette découverte de l'existence de Dieu est quelque chose de capital. La découverte de l'adoration est quelque chose de capital, est essentiel au point de vue humain. Cette troisième partie de l'éthique chrétienne, planète. Là, je vous demanderai d'être très perspicace et d'essayer d'analyser en toute vérité les oppositions tacites et explicites que vous pouvez avoir vis-à-vis de ça. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je ne fais pas de théologie. Je fais une philosophie qui doit aller jusqu'au bout. Dans l'ordre spéculatif de la métaphysique. Dans l'ordre pratique de l'éthique. Et vous comprenez pourquoi? Si vraiment le Christ a existé, qu'il est venu nous enseigner, et qu'il y a eu, à partir de là, dans le monde entier, quelque chose de nouveau à l'égard de la conduite humaine. Le philosophe n'a pas le droit de dire « ça ne m'intéresse pas ». Intéresse l'homme, intéresse le philosophe. Absolument tout. Et donc là, une exigence du philosophe qui est évidemment très particulière et qui est réelle. Alors si vous avez des difficultés d'accepter ce point de vue, essayez d'analyser vos difficultés pour qu'elles ne restent pas affectives. Que ce soit des difficultés de votre intelligence philosophique. Et en découvrant ces difficultés, s'il y en a un, en découvrant ces difficultés, vous devenez plus intelligent. Comme ça, il y a un appétit pour vous de devenir plus intelligent. Et de ne pas être encombré d'affectivité qui risquerait d'arrêter complètement la recherche philosophique dans laquelle des quantités sont encombrées aujourd'hui. Il suffit qu'on parle du point de vue chrétien pour que tout de suite on dise, non, je ne veux pas rentrer. Mais regardez si ce qu'on appelle éthique chrétienne demeure essentiellement une éthique humaine. Est-ce que l'éthique chrétienne dit quelque chose qui est contraire à l'éthique humaine? Premièrement, si cette éthique ne dit rien contre l'éthique humaine, est-ce qu'elle dit quelque chose de positif qui permet à l'homme